le Royaume-Uni et le gradualisme ternaire propriétaire. Le cas du Royaume-Uni présente un intérêt évident. D'une part, car la monarchie britannique a été à la tête du premier empire colonial et industriel mondial au XIXe siècle et jusqu'au milieu du XXe siècle. Et d'autre part, car il s'agit en quelque sorte du cas opposé à celui de la France. Alors que la trajectoire française est marquée par la césure de la Révolution de 1789 et par de multiples ruptures politiques et restaurations monarchiques, impériales, autoritaires et républicaines au XIXe et XXe siècles, la trajectoire britannique semble caractérisée par le gradualisme absolu. Il serait cependant erroné de s'imaginer que c'est uniquement par petites touches que l'organisation sociale et politique du Royaume-Uni est passée du schéma trifonctionnel à une logique propriétariste, puis aux logiques travaillistes et néo-propriétaristes ultérieures. Les moments de rupture ont une importance essentielle qui doit être soulignée, car ils illustrent de nouveau la multiplicité des bifurcations et des trajectoires possibles et l'importance des crises et des logiques événementielles dans l'histoire des régimes inégalitaires. Deux points méritent particulièrement d'être signalés. D'une part, le rôle central joué par le combat pour la progressivité fiscale dans la chute de la Chambre des Lords, tout particulièrement lors de la crise fatidique de 1909-1911. Et d'autre part, l'importance de la question irlandaise dans la remise en cause générale de l'ordre dominant et du régime inégalitaire britannique entre 1880 et 1920, à la fois dans ses dimensions trifonctionnelles, propriétaristes et quasi-coloniales. Commençons par rappeler le contexte général. Le Parlement britannique a des origines anciennes que l'on fait généralement remonter au XIe-XIIIe siècle. Le Conseil du Roi, formé de représentants de la haute noblesse et du haut clergé, s'étoffe progressivement et inclut parfois des représentants des villes et des comtés. La séparation du Parlement en deux chambres, la Chambre des Lords et la Chambre des Communes, se met en place à partir du XIVe siècle. Ces institutions reflètent la structuration trifonctionnelle de la société de l'époque. En particulier, la Chambre des Lords se composait de membres des deux classes dominantes qui, initialement, avaient un poids équivalent au sein de l'Assemblée. D'une part, les Lords spirituels, c'est-à-dire les évêques, archevêques, abbés et autres représentants de la classe cléricale et religieuse. Et d'autre part, les Lords temporels, c'est-à-dire les ducs, marquis, comtes et autres représentants de la classe nobiliaire et guerrière. Dans les textes médiévaux anglais théorisant l'organisation sociale en trois ordres, comme ceux de l'archevêque Woolston de York, on retrouve le même souci d'équilibre que nous avons noté dans les textes français. Les nobles doivent écouter les conseils de sagesse et de modération que leur prodiguent les clercs, qui en retour ne doivent pas se prendre pour des guerriers et abuser de leur pouvoir, faute de quoi c'est l'ensemble de la légitimité du système trifonctionnel qui pourrait être menacé. Cet équilibre connaît une première rupture décisive dès le XVIe siècle. À la suite des conflits avec la papauté et de la dissolution des monastères décidée par Henri VIII dans les années 1530, les lords spirituels sont sanctionnés et voient leur rôle politique diminuer. Ils deviennent alors nettement minoritaires au sein de la Chambre des Lords, qui sera désormais presque entièrement contrôlée par les lords temporels. Au XVIIIe et XIXe siècle, le nombre de lords spirituels est ainsi limité à 26 évêques, alors que les lords temporels disposent de 460 sièges. La haute noblesse est en outre parvenue à imposer, à partir du XVe siècle, le principe que la quasi-totalité des sièges de lords temporels soit occupée par des pairs héréditaires, c'est-à-dire des ducs, marquis, comtes, earls, vicomtes et barons, se transmettant leur pairie de père en fils, généralement suivant la règle de la primogéniture. Ce système confère à ce mince groupe une pérennité et une prééminence considérables, à l'abri à la fois du pouvoir royal comme du jeu électoral et des enjeux de pouvoir et de rivalité à l'intérieur de la classe nobiliaire, la basse et moyenne noblesse ne jouant aucun rôle dans la nomination et la perpétuation des pairs. Certes, le roi a toujours conservé la possibilité théorique de nommer de nouveaux lords, en principe sans aucune limite, ce qui, en cas de crise grave, peut lui permettre de reprendre entièrement la main sur les affaires du royaume. Mais en pratique, ce droit a généralement été exercé avec la plus extrême prudence, et le plus souvent, dans des circonstances très particulières, sous le contrôle du Parlement, par exemple à la suite des actes d'union avec l'Écosse, 1707, et l'Irlande, 1800, qui conduisirent à la nomination de nouveaux lords, par exemple 28 pairs et 4 évêques dans le cas irlandais, ainsi qu'une centaine de sièges à la Chambre des communes, sans que cela bouleverse l'équilibre des pouvoirs. De multiples travaux ont montré l'extrême concentration du pouvoir et de la propriété terrienne caractérisant la haute aristocratie anglaise au sein des noblesses européennes. On estime qu'à la fin du XIXe siècle, autour de 1880, près de 80% des terres du Royaume-Uni étaient toujours détenues par 7000 familles nobles, moins de 0,1% de la population, dont plus de la moitié par seulement 250 familles. Moins de 0,01% de la population. Mince groupe qui correspondait pour une large part aux pairs héréditaires composant la Chambre des Lords. Par comparaison, la noblesse française détenait à la veille de la Révolution de 1789 environ 25-30% des propriétés terriennes du royaume, dans un contexte, il est vrai, où la classe ecclésiastique n'avait pas encore été expropriée. Rappelons également que la Chambre des Lords a joué un rôle nettement dominant dans le bicaméralisme britannique jusqu'au dernier tiers du XIXe siècle. Tout au long du XVIIIe puis du XIXe siècle, qu'il soit membre du parti Tory, conservateur, ou du parti Whig, officiellement rebaptisé Parti libéral à partir de 1859, la majorité des premiers ministres et des membres du gouvernement étaient issus de la Chambre des Lords. Il fallut attendre la fin du long mandat de Lord Salisbury, troisième marquis du nom et premier ministre Tory en 1885-1892 et de nouveau en 1895-1902, pour que cette tradition se perde et que les chefs de gouvernement soient désormais issus de la Chambre des communes. Il faut surtout insister sur le fait que la Chambre des communes était elle-même composée très majoritairement de membres de la noblesse au XVIIIe siècle et pendant la majeure partie du XIXe siècle jusqu'en 1860-1870. Adoptée à la suite de la Glorious Revolution de 1688 et de la destitution du roi James II, le Bill of Rights avait certes confirmé et sanctuarisé les droits du Parlement, en particulier pour l'adoption des impôts et des budgets. Mais ce texte fondateur n'avait rien changé à la structure du Parlement et à son mode d'élection. Il a au contraire abouti à consolider un régime parlementaire qui était fondamentalement aristocratique et oligarchique. En particulier, l'ensemble des lois devait toujours être adopté dans les mêmes termes par les deux chambres, ce qui conférait un droit de veto à la Chambre des Lords, et donc à quelques centaines de pairs héréditaires, sur la totalité de la législation du royaume, notamment en matière fiscale et budgétaire, et pour tout ce qui concernait le droit de la propriété. Par ailleurs, les membres de la Chambre des communes étaient toujours élus par une minorité de propriétaires. Les règles définissant le cens électoral, c'est-à-dire le montant des impôts qu'il fallait acquitter ou des propriétés qu'il fallait détenir pour avoir le droit de voter, étaient complexes et variables suivant les circonscriptions et contrôlées par les élites locales au pouvoir. Elles favorisaient en pratique les propriétaires terriens, dont l'influence était en outre renforcée par un découpage électoral accordant plus de sièges aux zones rurales. Au début des années 1860, environ 75% des sièges de la Chambre des communes étaient ainsi toujours occupés par des membres de l'aristocratie, alors même que cette dernière représentait moins de 0,5% de la population britannique de l'époque. On trouvait sur les bancs des communes des représentants des trois principales composantes traditionnellement distinguées au sein de la classe nobiliaire du Royaume-Uni, la pairie, la noblesse titrée, hors pairie, et la gentry, noblesse non titrée. La pairie était bien représentée, en particulier sous la forme de fils cadets de pairs héréditaires qui, sauf exception, n'avaient aucune chance d'avoir accès à la Chambre des Lords et faisaient souvent le choix d'une carrière parlementaire et politique aux communes, généralement se faisant élire dans une circonscription où le lignage familial détenait de vastes domaines terriens. On comptait également aux communes des fils aînés de pairs héréditaires dans l'attente de leur place à la Chambre des Lords. Salisbury fut ainsi membre de la Chambre des communes à partir de 1853, avant de prendre son siège à la Chambre des Lords à la mort de son père en 1868, puis de devenir Premier ministre en 1885. On trouvait aussi parmi les députés élus aux communes un grand nombre de membres de la noblesse titrée, et en particulier des baronnets et des chevaliers, knights. Cette composante de la noblesse ne jouait aucun rôle politique direct au Royaume-Uni et ne bénéficiait d'aucun privilège légal ou fiscal particulier, mais leur titre était néanmoins protégé par l'État britannique, et ses membres occupaient une place protocolaire de choix dans les processions et cérémonies officielles, juste derrière les pairs héréditaires. Il s'agissait d'un groupe extrêmement prestigieux, à peine plus nombreux que la pairie, et auquel le monarque pouvait choisir de donner accès par lettre patente, suivant une procédure similaire à celle utilisée pour les nominations parmi les lords. Le monarque pouvait en principe procéder à des nominations sans limitation de nombre, mais dans un cas comme dans l'autre, il procédait toujours avec modération. Au début des années 1880, le royaume comprenait ainsi quelque 856 baronnets qui se plaçaient immédiatement au-dessous des 460 pairs héréditaires de la Chambre des Lords, suivis de quelques centaines de knights. Le titre de baronnet pouvait également servir de voie d'accès à la pairie, par exemple au cas où des lignées de pairs disparaissaient sans descendance. Il fait l'objet encore aujourd'hui d'une liste officielle, l'Official Roll of the Baronetage, tenue par le ministère britannique de la Justice. Enfin, la Chambre des communes comptait également un grand nombre de membres de la gentry, c'est-à-dire de la noblesse non titrée, qui formait le groupe numériquement le plus important au sein de l'aristocratie britannique au XVIIIe et XIXe siècle, mais qui n'avait aucune existence officielle d'aucune sorte, pas même un titre reconnu par l'État ou une place dans les processions et cérémonies. L'aristocratie britannique, une noblesse propriétariste. Cette structure de l'aristocratie britannique en trois groupes, pairs siégeant à la Chambre des Lords, noblesse titrée hors pairie, gentry sans statut officiel, explique d'ailleurs pourquoi il est si difficile d'estimer de façon parfaitement précise l'évolution de la taille de la noblesse au Royaume-Uni. Les difficultés sont d'une nature légèrement différente de celles rencontrées dans le cas de la France. Au XVIIIe siècle, la noblesse française dans son ensemble avait une existence légale, puisque tous ses membres disposaient de privilèges politiques, comme le fait de choisir les représentants de l'ordre nobiliaire aux États généraux, fiscaux, comme l'exonération de certains impôts tels la taille, et juridictionnels, avec les cours de justice seigneuriales. Mais l'état de noblesse était d'abord défini au niveau local, dans des conditions et suivant des modalités qui ont laissé des traces disparates et difficiles à comparer suivant les provinces, si bien qu'il existe des incertitudes importantes sur la taille totale du groupe. À la même époque, la noblesse britannique regroupait d'une part une mince noblesse titrée, moins de 0,1% de la population, qui comprenait notamment la pairie héréditaire, dotée de privilèges politiques considérables, à commencer par le droit de veto dont disposa la Chambre des Lords sur l'ensemble de la législation du royaume jusqu'en 1911 et d'immenses domaines terriens. Et d'autre part, la noblesse non titrée, gentry, qui était de loin la plus nombreuse, puisque l'on estime généralement que la taille totale de la classe nobiliaire était autour de 1% de la population au XVIIIe siècle et de moins de 0,5% à la fin du XIXe siècle, mais qui n'avait pas d'existence légale officielle. La gentry formait une classe de propriétaires prospères, plus large certes que la minuscule noblesse titrée britannique, mais autrement plus fine que les classes pléthoriques de petits nobles espagnols, portugais ou polonais. Même si elle ne disposait pas de privilèges politiques et fiscaux explicites, il est bien évident que la gentry bénéficiait grandement du régime politique en vigueur au Royaume-Uni. La gentry se composait notamment des descendants des branches cadettes des lignages titrés, pairs, baronnets et chevaliers, et plus généralement de groupes issus des anciennes classes guerrières et féodales anglo-saxonnes, élargies à de nouveaux groupes de possédants en fonction des stratégies d'alliance et de reconnaissance. Les règles déterminant le droit de vote pour les élections aux communes définies au niveau local favorisaient généralement les propriétés terriennes et avantageaient donc indirectement les membres de la gentry qui avaient su conserver un important domaine terrien par rapport à des membres des nouvelles classes bourgeoises et marchandes dont la fortune aurait été exclusivement manufacturière, urbaine ou financière. Mais le point central est que les frontières entre ces différents groupes de propriétaires étaient relativement poreuses. personne ne savait de façon certaine où commençait et où s'arrêtait la gentry, qui était uniquement définie par le fait que des membres étaient reconnus comme tels par les autres membres du groupe au niveau local. En pratique, de multiples fortunes terriennes et aristocratiques s'étaient progressivement réinvesties dans des activités marchandes, coloniales ou industrielles au cours du XVIIIe et du XIXe siècle, si bien que de nombreux membres de la gentry avaient des patrimoines diversifiés. À l'inverse, nombre de bourgeois authentiques et d'anciens marchands, sans origine féodale ou guerrière d'aucune sorte, avaient eu le bon goût d'acquérir un solide domaine terrien, d'adopter le mode de vie adéquat et de se marier convenablement de façon à faire leur entrée incontestée dans la gentry. Une alliance avec d'authentiques descendants des anciennes lignées guerrières et féodales, ou bien avec des enfants de la noblesse titrée plus récente, facilitait la reconnaissance comme membre de la gentry, mais ce n'était pas là une condition indispensable. Le régime social et politique en vigueur au Royaume-Uni au XVIIIe siècle et pendant la majeure partie du XIXe siècle reflète dans une large mesure une forme de fusion graduelle des logiques aristocratiques et propriétaristes. Les conditions de l'exercice du droit de vote étaient-elles aussi définies par les élites au niveau local? Il fallut attendre 1832 pour qu'une première véritable tentative de réforme électorale et de législation nationale vit le jour. La contestation sociale et les mobilisations en faveur de l'extension de la franchise électorale conduisirent à ce qu'une loi soit votée pour la première fois par le Parlement, non sans résistance. Une partie des députés des communes voyait là une possibilité d'accroître leur légitimité face aux Lords. Le nombre d'électeurs, qui représentait autour de 5% des hommes adultes en 1820, soit un groupe nettement minoritaire mais sensiblement plus large que la seule gentry, augmenta significativement à la suite de la loi de 1832, tout en restant relativement faible et nettement minoritaire. Il était d'environ 14% de la population adulte masculine en 1840, avec des variations régionales considérables, car les circonscriptions conservèrent le privilège de définir les règles exactes encadrant le droit de vote, en fonction notamment des stratégies des élites locales et en particulier de la gentry. Ces règles ne furent plus modifiées jusqu'aux réformes électorales véritablement décisives de 1867 et 1884. Soulignons également que le secret des urnes ne fut introduit qu'en 1872. Auparavant, chaque vote individuel était annoncé publiquement et conservé dans des registres que l'on peut toujours consulter aujourd'hui, ce qui constitue d'ailleurs une source précieuse pour les chercheurs. Avant cette date, il n'était pas toujours simple pour les électeurs d'afficher des choix politiques contraires à ceux des propriétaires ou des employeurs les plus puissants du comté. En pratique, une grande partie des sièges était non contestée. Le député local était réélu d'élection en élection et souvent de génération en génération. Au début des années 1860, la Chambre des communes avait encore une nature profondément aristocratique et oligarchique.